L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Malgré le froid inhabituel, extraordinaire même, de ce 16 janvier 1954, René Julliard dîne en ville chez Émile Roche, le président du Conseil économique. Les sujets de conversation ne manquent pas. Les convives échangent entre autres de la passation dans la journée des pouvoirs entre Vincent Auriol et René Coty, le nouveau président de la République. Parler du nouveau locataire de l'Élysée, c'est aussi s'intéresser aux épouses. Michèle Auriol, l'ancienne première dame de France, avait de l'allure. Elle posait pour Paris Match en tenue haute couture. En revanche, Germaine Coty, l'épouse du nouveau président, apparaît plutôt comme une vache normande. Mais on sait que les Français aiment tant ceux qu'ils ont détestés auparavant. Ils apprécieront durant les 7 années à venir la gentillesse toute naturelle et la bonté de leur nouvelle première dame de France. Rentré chez lui et encore grisé par les nombreux verres de Grand et Chézot 1938 servis durant la soirée, l'éditeur décide néanmoins de ne pas aller se coucher tout de suite. Non, il veut lire un peu. Allongé sur son lit, il sort d'une chemise jaune un manuscrit recommandé par François Le Gris. Son premier lecteur a rédigé quelques notes sur une feuille de papier. La plume de Mademoiselle Coiré court joliment sans défaillir. Cela nous empêche de remarquer les impropriétés nombreuses qu'il conviendrait de faire disparaître d'un texte si heureux. Et il termine « Bonjour tristesse ». Ne vaudrait-il pas mieux écrire « Bonsoir tristesse » ? Le texte n'y gagnerait-il pas en justesse ? René Julliard découvre ensuite le nom de l'auteur. Françoise Coiré, 167, boulevard Malherbe. Carnot, 59-61, né le 21 juin 1935. Une date de naissance ? Comme c'est curieux. Chercherait-elle de la bienveillance auprès des lecteurs de la maison ? Car en effet, un rapide calcul permet à René Julliard de conclure que Françoise Coiré est mineure. Il se dit « Voici donc de la littérature rose bonbon ». Julliard se redresse, remonte les oreillers, en ajoute d'autres encore pour s'installer le plus confortablement possible. Il est persuadé que la lecture de ce genre de roman ne devrait pas lui demander trop d'efforts, surtout après un dîner bien arrosé. Il pense aussitôt à l'un de ses bouquins. Il se souvient des « Jeunes filles » de Henri de Monterlan. Il sourit. Ah, l'ouvrage était d'une misogynie qui l'avait toujours beaucoup amusé. Ouais ben, plutôt lire ça que des gribouilles d'adolescentes. L'éditeur pose le texte au pied du lit et se lève pour chercher le livre en question. Ah, en vain, il ne le trouve pas. Bon, contrarié, il est forcé de reprendre le manuscrit dans la chemise jaune. Il en sort la première page avec toujours ce drôle de titre « Bonjour tristesse ». C'est un vers, le second que Françoise Coiré a emprunté au poème de Paul Éluard, à peine défiguré. Julliard poursuit sa lecture. Sur ce sentiment inconnu dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à apposer le nom, le beau nom grave de tristesse. Mais son esprit est obscurci. L'alcool trouble sa vue et les lignes se chevauchent. Cet état l'oblige d'ailleurs à relire une fois, deux fois, trois fois les premières lignes. Il se redresse ensuite vigoureusement, se cale dans les coussins et se racle la gorge. Il enlève ses lunettes et frotte ses yeux ensablés. La façon d'écrire l'interpelle et les premières phrases qu'il vient de lire sont tellement ardues, surtout pour quelqu'un qui présente un premier roman. Il reprend plus sérieusement cette fois. Sur ce sentiment inconnu dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à apposer le nom, le beau nom grave de tristesse. Cette fois, la modernité du texte le dessoule complètement. Son cœur s'emballe. Il dévore la première moitié du manuscrit sans s'en rendre compte. La jeune autrice écrit et pense comme un homme qui a tout vu, tout lu, tout connu. Et ce qui le questionne davantage, c'est qu'elle dresse le portrait de son père comme si c'était celui d'un amant, le sien. René Julliard est sous le charme. Il apprécie la construction de la phrase, la manière d'esquisser les personnages avec quelques traits seulement. Il est séduit par le rythme intense et qui plus est. La jeune femme arrive sans cesse à le surprendre sans prévenir. Tout cela est exécuté avec la maîtrise d'un grand chef d'orchestre. L'éditeur pose enfin le manuscrit sur ses cuisses. Il se demande alors à quoi peut bien ressembler son autrice. Et ce récit, est-il autobiographique? Est-il romancé? Tu es le plus bel homme que je connaisse. Cette phrase a-t-elle été pensée, écrite par une pucelle ou par une femme de grande expérience? Oh, pour lui, les deux femmes sont étrangement liées. Mais qui êtes-vous donc, mademoiselle Coiret? Plus tard dans la nuit, Julliard pose enfin la chemise jaune sur sa poitrine et le plaide par-dessus et s'endort. L'éditeur n'a pas été jusqu'au bout de la lecture, mais une chose est certaine, il publiera. Il sent, il sait qu'il peut transformer ce manuscrit en un objet de désir, un fétiche culturel que l'on doit posséder. N'est-ce pas là le cœur même de son métier? Sa maison d'édition n'a-t-elle pas toujours été à l'écoute de l'actualité? Et puis, il veut être le premier, le plus rapide. L'autrice a sans doute déposé son manuscrit ailleurs, chez ses rivaux, Gallimard, Grasset, Plon. Alors il ne faut plus tarder. Chez René Julliard à Paris, les 12 coups de minuit de l'horloge de Parquet Comtoise viennent de résonner dans le grand hall. Ce 16 janvier 1954 à minuit, c'est leur hache de mon histoire consacrée aujourd'hui à la parution du roman Bonjour Tristesse, le premier ouvrage écrit par Françoise Sagan. Le lendemain matin, Gisèle Dassaï découvre son mari encore endormi. La fameuse chemise jaune et de nombreuses pages dactylographiées sont à présent éparpillées sur le sol. L'épouse se baisse pour les rassembler. René Julliard ouvre les yeux. « Tout cela est complètement aberrant », marmonne-t-il. Les quelques heures de sommeil lui ont permis de retrouver la raison et aussi le fruit de ses réflexions. Il est impossible qu'une jeune femme de 19 ans ait pu écrire un tel texte. Une jeune écrivaine qui manie aussi bien la langue et qui décrit avec autant d'exactitude les mœurs bourgeoises ne peut qu'appartenir à cette même classe sociale. C'est mathématique, c'est d'une logique implacable. Puis une autre phrase lui revient. « Bien dormi ?» dit mon père. « Comme ça, répondis-je. J'ai bu trop de whisky hier soir. » Comme si une jeune fille de bonne famille, bourgeoise, pouvait répondre de cette façon à son père. Il en conclut qu'offrir à son enfant une éducation culturelle parfaite et lui permettre de se dévergonder à ce point, tout cela ne tient pas la route. L'éditeur est debout, il se sent raide. Julliard se précipite à son bureau et décroche le téléphone. Des pensées nombreuses et confuses se télescopent dans sa tête, dont une qui revient en boucle. Mais qui se cache derrière Françoise Coiret? Julliard est convaincu que l'auteur du manuscrit est un homme d'âge mûr. Françoise Coiret est un pseudonyme. Et tout en composant le numéro du standard, une autre phrase l'interpelle. Sans doute à son âge, je paierai aussi des jeunes gens pour m'aimer parce que l'amour est la chose la plus douce et la plus vivante, la plus raisonnable. Non, non, ce n'est pas une jeune fille qui a écrit ces lignes, mais non. Mais cette fois, il en aura le cœur net. Il décroche le combiné. Bonjour, René Julliard à l'appareil. Les éditions, René Julliard. Je suis bien chez Mademoiselle Coiret. Quelques secondes plus tard, l'éditeur accroche, dépité. Il n'en croit pas ses oreilles. Julia Lafont, la fidèle parmi les fidèles, celle qui sert chez les Coiret depuis 23 ans, l'a tout bonnement envoyée balader. Et elle lui a répondu simplement « On ne réveille pas Françoise un dimanche, et surtout pas de si bonne heure. » Qu'à cela ne tienne. L'éditeur fait immédiatement envoyer un télégramme au domicile de la belle endormie. « Rendez-vous 17h ce jour aux éditions René Julliard. » En avalant sa tartine, Françoise réfléchit. Attendre 11 jours pour recevoir une réponse, c'est plutôt rassurant, non? La vie est faite de hasard. Le 6 janvier 1954, Françoise Coiré dépose son manuscrit à la réception des éditions René Julliard. Au même moment, de l'autre côté de l'Atlantique, Elvis Presley, un garçon de 19 ans, enregistre 2 chansons dans un petit studio qui s'intéresse à la musique afro-américaine. C'est à Memphis, dans le Tennessee. Il a payé $4 de sa poche. Pourront-ils, ces deux-là, dans les années à venir, gérer leur destin qui vient de basculer et qui va les entraîner dans un tourbillon médiatique infernal? Un surnom. Tous les grands écrivains en ont un. Tous ceux que Françoise vénère et qu'elle a toujours lus se sont fait appeler Stendhal, Georges Sand, Guillaume Apollinaire. Il y a eu aussi Paul Éluard, celui à qui elle a emprunté le 2e vers de son poème, à peine défiguré. Bonjour tristesse. Utiliser un autre nom, c'est se marier avec la littérature. Ce nom, c'est comme si Françoise désirait porter un nouveau costume. Pas pour devenir quelqu'un d'autre, mais au contraire, pour devenir elle-même. Mais pour l'instant, revenons-en à ce rendez-vous, celui que René Julliard lui a transmis par télégramme. Rendez-vous 17h ce jour, aux éditions René Julliard. Vers 15h, l'éditeur retrouve son collaborateur, François Legris, pour préparer un interrogatoire serré, précis. Julliard veut savoir qui se cache derrière la gamine de 19 ans. On ne trompe pas aussi facilement l'éditeur aux 3 Goncourt. Quant à Françoise, elle invente un mensonge confus pour emprunter la Buick noire de son père. À 17h précise, elle est au rendez-vous. La secrétaire que l'éditeur a convoquée ce dimanche l'introduit dans un bureau. Grand, élégant, René Julliard l'observe attentivement derrière ses lunettes en écaille. La belle endormie est une jeune femme de 19 ans. Elle porte un long manteau en laine qui tombe au-dessus des chevilles. Un foulard de soie enveloppe discrètement son cou. Ses cheveux sont attachés. Elle paraît 15 ans autant que 30. Assise et face à lui, Françoise joue de son intelligence euphorisante. Elle tricote ses idées. C'est rapide et les raccourcis sont inattendus. Les silences qui s'invitent dans la conversation sont colorés par 2 yeux immenses, un regard brillant de vivacité. Son instinct de vendeur lui souffle qu'il a trouvé en Françoise Coiré un personnage, un prodige comme sa maison les aime tant. Sa jeunesse sera un très bon argument commercial. Mais il y a un hic. Françoise est mineure et elle est une femme. Rappelons-nous, nous sommes en 1954. Une femme mariée, même majeure et même plus âgée que son mari, ne peut ouvrir un compte en banque, gérer son avoir, ni même exercer une profession sans sa permission. Julliard sait aussi, car Françoise le lui a avoué, que ses parents n'ont pas lu le manuscrit. Il n'est pas certain dès lors qu'ils acceptent de signer le contrat pour leur fille après l'avoir lu. Et s'ils refusent, devra-t-il alors attendre 3 ans pour le publier? Et on ne parle même pas d'un quelconque jeune homme qui viendrait à l'épouser d'ici là et qui, lui, refuserait de l'avoir exercé un métier. Françoise rassure René Julliard d'un « oui » timide. Et elle ajoute « ils donneront leur accord. Mes parents sont des gens formidables. » Il lui demande enfin combien elle veut d'avaloir. Elle lui répond du tac au tac. 25 000 francs. Julliard répond. Très bien, très bien. Je vous propose le double. On prétend que leur entretien a duré 3 heures. Que se sont-ils racontés? Mystère. Il est certain que René Julliard a dû la bombarder de questions pour tenter de la cerner et savoir qui se cachait derrière cette romancière délurée. Nous sommes dans les années 50 et pour un éditeur de cette époque, Françoise le rassure. Elle est une jeune bourgeoise et émancipée, juste ce qu'il faut. Elle sait écrire, c'est une évidence, et elle est dessalée, juste ce qu'il faut aussi. À l'issue de leur entretien, Julliard sait maintenant que Françoise Coiré a bien écrit le manuscrit. Il observe de la fenêtre de son bureau tandis qu'elle quitte l'immeuble en courant, car Françoise exulte. Elle s'empresse de rejoindre Florence, la fille de Clara et d'André Malraux. Elles sont amies depuis leur plus tendre enfance. Françoise arrive tout essoufflée au Café L'Espérance. Elle se débarrasse rapidement de son long manteau en laine et s'installe à ses côtés sur la banquette. Elle lui annonce fièrement « Florence, on va acheter une Jaguar avec l'argent du livre. » Françoise a bien dit « on » car pour elle, son plus grand plaisir est de partager. Toute sa vie, Françoise partagera avec ses proches et ses amis. Et ils seront nombreux. Françoise est persuadée qu'elle sera une écrivaine reconnue. C'est son destin, c'est écrit. Enfant gâtée depuis sa naissance, pourquoi cette fois la vie lui refuserait-elle ce cadeau? Cependant, et ce qu'elle n'a jamais voulu admettre, c'est que si la société vous offre un jour gloire et fortune, en retour, elle exige un merci. Elle réclame de la reconnaissance. Or ça, Françoise Sagan ne l'a jamais fait. Elle a toujours trouvé parfaitement normal d'être gâtée par la vie et par la chance. Elle n'a jamais compris qu'elle devait rendre des comptes. La société s'est bien chargée de le lui rappeler plus tard. Lorsqu'elle arrive enfin à boulevard Malherbe, la famille Coiré est déjà à table. C'est le dîner dominical. Les deux aînés auraient été sévèrement punis pour un tel retard, mais pour Françoise, c'est différent. Et c'est comme ça depuis toujours. « Non mais t'as vu l'heure ?» demande sa mère. « J'ai trouvé un éditeur pour mon livre. » s'empresse-t-elle de répondre. « Oui, formidable. Va te donner un coup de peigne. » se contente-t-on de lui répondre. Les premiers jours qui suivent l'entretien avec René Julliard, la joie de Françoise est immense. Son vœu d'être publié va être exaucé. Elle a signé. Mais très vite, l'excitation s'estompe. Françoise réalise qu'en fin de compte, sa vie suit tout bonnement son chemin. Et c'est normal. Ses parents ont lu le livre. Sa mère, Marie, s'est étonnée que sa fille puisse vouloir être écrivaine alors qu'elle maîtrise si mal la syntaxe et la grammaire française. Quant à son père, Pierre, il s'est contenté de la féliciter. Il fait très froid cet hiver 1954 à Paris. La Seine a gelé. Les éclusions ont cassé la glace pour préserver leurs équipements et des morceaux flottent sur le fleuve à la dérive. Au volant de la Buick noire de son père, Françoise Coiré observe les vendeurs de marrons chauds et autres commerçants qui se réchauffent autour du brasero. Sur Radio Luxembourg, l'abbé Pierre lance un appel à toute la France. « Mes amis, au secours !» Une femme vient de mourir gelée, cette nuit, à 3h, sur le trottoir du boulevard Sébastopol. Elle serrait contre elle le papier par lequel, avant-hier, on l'avait expulsée. Françoise regarde sa montre. À 15h, elle doit rappeler René Julliard. Ils ont convenu de la nécessité de changer son nom et d'utiliser un pseudonyme. Françoise Coiré, c'est pas vendeur du tout. L'éditeur lui a rappelé que plus on traîne, plus la fabrication sera retardée et donc la sortie. Françoise considère déjà que mi-mars, c'est le bout du monde. Il ne lui reste que peu de temps, 1 heure tout au plus. Elle fait demi-tour et rentre chez elle. Sa première idée, c'est de s'emparer de l'annuaire, mais très vite, elle l'écarte. Elle sait où il faut chercher. Le bottin des noms les plus doux, les plus surprenants qu'ils soient, c'est dans la suite romanesque de Marcel Proust qu'elle les trouvera. À la recherche du temps perdu. Elle se plonge alors avec enthousiasme dans les 7 tomes. Beaucoup de noms lui plaisent pour leur musicalité. Il y a de Stermania, de Cambremer, mais ça ne suffit pas. Il faut plus de profondeur, plus de... Elle pense aussi à Bergotte. L'écrivain admiré et jalousé. Seulement, Françoise Bergotte, ça fait idiote. Elle reprend à l'ombre des jeunes filles en fleurs. Et là, le nom Sagan lui saute aux yeux. Boson de Talleyrand, Périgord, prince de Sagan. Swann dit à sa femme, Odette, Sagan vous dit bonjour. Elle s'arrête. C'est décidé. C'est décidé, ce sera Sagan. Françoise Sagan. Une double identité, moitié homme, moitié femme. Cette image lui convient. elle lui collera la peau. Et sa gant. Cela veut dire aussi que l'on peut conduire des voitures de sport, pieds nus et vernis. On peut perdre au casino et demander au portier la monnaie juste pour rentrer chez soi. Et enfin, sa gant, c'est aussi pouvoir aimer des hommes et des femmes, car ce qui compte avant tout, c'est aimer, aimer fort. La jeune romancière se rend rue de l'université pour découvrir la maquette de la couverture de son livre. L'ouvrage va bientôt partir en fabrication. Françoise gare la Buick de son père à côté de la Cadillac de René Julliard et monte 4 à 4 les marches qui la séparent de l'atelier. La couverture est là, sous ses yeux. Elle existe vraiment. Quelle fascination! C'est comme si on lui disait « Avant, tu écrivais. Aujourd'hui, tu es une écrivaine. Tu fais partie de cette communauté qui t'émerveillait tant depuis ton enfance. » La tête penchée et les yeux fixés sur la maquette, Françoise imagine la couverture blanc-crème de Gallimard. Ses liserés rouges et noirs. Les trois lettres NRF qui flottent comme un vaisseau sur l'onde tranquille et immortelle de la littérature. Elle sourit car pour elle, ce sera par une autre porte, plus commerciale celle-là, plus moderne mais moins littéraire qu'elle va entrer. La couverture est plus ordinaire. Des bandes décoratives d'un vert forêt d'épicéa forment un rectangle duquel les mots « bonjour tristesse » tentent de s'échapper avec force à la recherche d'une quelconque liberté. Les lettres capitales du mot « Julliard » sont inscrites dans le bas, façon Gallimard. Une ressemblance qui pourrait tromper l'acheteur, mais qu'importe pour elle, son livre existera. En quittant l'imprimerie, Françoise est toujours sur son nuage, déconnectée d'une réalité qui la rattrape rapidement quand elle allume son autoradio. L'appel de l'abbé Pierre est pressant. Il faut d'urgence des couvertures, des milliers de couvertures. Des vêtements chauds aussi. Des bébés, des grands-mères décèdent dans la rue. Un animateur à la radio donne une adresse où livrer les précieux colis. L'hôtel Rochester, 92 rue de la Boétie. Françoise sait que des pull-overs chauds et des chaussures vieillissent dans les placards à la maison. Arrivée boulevard Malherbe, elle appelle Julia Lafont, si dévouée à la famille Coiré, comme eux. Elle vient de Carjac, dans le Lot. Mais Julia ne veut pas l'aider dans cette démarche sans l'accord de la maîtresse de maison. Finalement, et sans l'autorisation maternelle, elles se hissent toutes les deux sur la pointe des pieds pour faire glisser du sommet de l'armoire une énorme caisse en carton. Elle devrait contenir tout ce qu'elle cherche. À peine ouverte, Julia frémit de tout son corps. Elle se souvient tout à coup que Françoise ne peut pas savoir. Elle doit ignorer le contenu de la malle. Personne. Personne ne lui a jamais parlé de Maurice, son frère aîné. Le nourrisson est décédé de déshydratation dans son berceau. Tout se met à tourner autour de Françoise dans la pièce. Elle voit Julia s'effondrer en larmes devant les vêtements du bébé et refermer la caisse en vitesse. Les vrais secrets de famille n'existent pas. Ils attendent toujours leur heure pour se dévoiler un jour, tôt ou tard. Françoise n'est donc pas surprise de cette découverte. Un trousseau d'enfants qu'on a tenté d'oublier sur une armoire. Pour elle, cependant, ce n'est pas une douleur. Non, c'est un soulagement. Cette révélation répond enfin à ses terreurs nocturnes et à ces images qui troublaient si souvent son esprit durant la journée. Des enfants morts la hantaient et lui parlaient. Françoise peut désormais mettre des mots sur une souffrance déguisée et la transformer en une véritable blessure. Son frère aîné, Maurice, mourut dans son berceau durant son sommeil, un bébé si gai et qui souriait tout le temps. Pour les Coiré, si joyeux, si fantasque, qui aimaient recevoir et faire la fête, le désespoir s'invita dans leur maison. Mais grâce au ciel, 10 ans plus tard, Marie, la maman de Françoise, ressentit comme une folle envie de manger des crustacés et boire du vin blanc au bord de la mer. Et pourquoi pas à Deauville, avait-elle exigé. Son mari, Pierre, s'était réjoui. Il s'était mis à pleurer de joie. Mais le nouveau petit garçon tant espéré et qui devait ressembler trait pour trait à l'enfant disparu fut en réalité une petite fille chétive et minuscule, Françoise, à ne jamais quitter les yeux. Ainsi, depuis sa naissance, ses parents se sont émus de la voir respirer et vivre. La petite fille a eu tous les droits, toutes les autorisations, tous les cadeaux. Aux aînés, Pierre et Suzanne, on n'a jamais rien laissé passer. À la Benjamine, on a tout laissé faire. Ses nombreux retards à table n'ont jamais été sanctionnés, tandis que pour les aînés, ils étaient fortement réprimandés. Françoise a toujours tutoyé ses parents, son frère et sa sœur, non. À la suite de la découverte de ce trousseau, Françoise et Julia restent longtemps sans se parler. Françoise comprend que son grand frère l'accompagne depuis toute petite. Maurice a toujours été là quand elle conduisait sa voiture à pédales. Il la relevait quand elle tombait de vélo. Les deux femmes remettent les affaires dans la malle et la rangent sur l'armoire des parents. Ensuite, Françoise choisit rapidement deux pulls chauds que sa mère lui a offerts à Noël. Elle embarque le manteau en astrakan de sa sœur Suzanne et deux foulards en soie signés Hermès. Tout est en parfait état. Elle a pris ce qu'il y avait de plus cher. Elle entasse le tout dans une valise et quitte la maison pour rejoindre au plus vite l'hôtel Rochester en taxi. La rue de la Boétie est pleine de monde. Des voitures klaxonnent pour se frayer un passage. Devant l'entrée de l'hôtel, des femmes du grand monde attendent avec des vêtements chauds et de qualité dissimulés sous leur manteau de fourrure. Henri Grouès, qui se fait appeler l'abbé Pierre, observe toute cette foule qui a répondu si nombreux à son appel. Il faudra réquisitionner très vite le hall de la gare d'Orsay pour rassembler tous les dons. De retour à la maison, Françoise se réfugie dans sa chambre. Elle ne veut voir personne. Et surtout pas sa famille, qui savait et qui a gardé ce secret pendant 18 ans sans le partager. Allongée sur son lit, elle allume une Chesterfield. C'est la première fois qu'elle fume. Les gestes sont encore mal assurés. Cette première cigarette permet à Françoise Coiré de s'effacer progressivement pour laisser la place à la future Françoise Sagan. Quelques jours plus tard, nous sommes encore en février, Françoise décide de tuer le temps. Elle se rend au cinéma, le Luxor où l'on projette « Et si Versailles m'était compté ?» L'affiche réunit tous les acteurs connus du moment. Sacha Guitry cherchait une actrice jeune et pas chère pour donner la réplique à Jean Marais. Il a trouvé Brigitte Bardot. À quelques mois près, Brigitte et Françoise ont le même âge. Mais l'actrice a déjà fait la une du magazine Elle. Son mariage à 18 ans avec un jeune réalisateur russe a été raconté dans tous les journaux. Et comme Françoise, elle a dû demander la permission à ses parents. Françoise Sagan regarde sur l'écran la poitrine étonnante de Brigitte Bardot. On ne voit qu'elle quand elle apparaît vêtue d'une robe de satin d'un blanc pur, virginal. Cette image l'amuse. Elle pense à la sienne, à ses seins tout petits, si petits. Voilà donc deux jeunes filles avec tant de choses en commun. Elles sont toutes les deux issues de la bourgeoisie et ont reçu une même éducation rigide. Mais la guerre est passée par là. Elle va changer les mentalités. Les parents vont tout faire pour oublier les restrictions de la guerre et les enfants vont en profiter pour bouleverser tous les ordres. Brigitte et Françoise, chacune à leur manière, vont fasciner les hommes et séduire la jeunesse. Elles ouvriront le chemin de l'émancipation sexuelle pour les filles de leur génération. Mais elles seront aussi, à leur insu, utilisées contre d'autres femmes. Celles qui se sont distinguées durant les 10 dernières années et qu'on aimerait bien voir rentrer dans les rangs pour s'occuper des enfants de la maison. Nous sommes début mars. Les journées sont longues. Alors Françoise se promène dans Paris pour occuper les 10 jours avant la sortie de son livre dans les librairies. Elle parcourt les allées du jardin de Luxembourg au milieu des chaises abandonnées. Elle remonte vers le Panthéon. Des livreurs la croisent, des ouvriers sur les toits l'observent. Des Citroën traction noire circulent dans les rues. Ses journées d'errance lui rappellent ses vadrouilles dans la ville. Pendant 3 mois, la fillette, alors âgée de 12 ans, faisait croire à ses parents qu'elle allait à l'école. Personne ne s'en était jamais rendu compte. Françoise Coiré est toujours vagabonde. Pas encore Sagan. La jeune femme se projette. Elle souhaite gagner beaucoup d'argent avec la vente de ses livres. Elle désire rencontrer le président de la République pour s'entretenir avec lui de la littérature. Elle veut traverser l'Atlantique pour rencontrer de nouveaux admirateurs et ambitionne même d'approcher les écrivains qu'elle admire. Jean-Paul Sartre, Tennessee Williams, entre autres. Et enfin, son vœu ultime est de gagner suffisamment d'argent pour ne plus avoir jamais à penser à l'argent. Quelques jours plus tard, le 7 mars exactement, les exemplaires arrivent rue de l'Université au service de la presse. Françoise est arrivée tard. René Julliard l'attendait bien plus tôt dans la matinée. La signature et l'envoi, cela prend beaucoup de temps. Des piles de livres s'accumulent sur les bureaux. Chacun est gainé d'un bandeau rouge sur lequel on peut lire « Le diable au cœur ». Une référence au livre de Raymond Radiguet, édité chez Grasset il y a 30 ans. Personne ne lui a demandé son avis. Sans doute aurait-elle reproché cette idée pour éviter les sarcasmes et autres fausses comparaisons. Elle espère seulement que l'on ne lui collera pas l'étiquette de « Radiguet en jupon ». Elle se console en pensant que désormais, son livre ne lui appartient plus. Il fait nuit quand elle termine sa première séance de dédicace. La main est engourdie et le poignet raide. L'image de ces livres qui circuleront bientôt dans les rues et qui arriveront dans les boîtes aux lettres l'impressionne fortement. C'est fini. C'est fini, Françoise ne peut plus revenir en arrière. Dans quelques heures, les premiers lecteurs découvriront un ouvrage signé par une jeune femme inconnue, Françoise Sagan. Françoise rejoint Florence Malraux, son amie de toujours. Il y a quelques mois, elles étaient encore deux lycéennes en jupe droite et ballerines. Aujourd'hui, elles travaillent. L'une chez Gallimard et l'autre attend la sortie de son premier ouvrage. En marchant dans la rue, Florence s'approche de Françoise et lui glisse à l'oreille. « Nous sommes invités chez Dionys et Marguerite. » Les joues de Françoise rosissent. Après avoir attendu si longtemps, elle entre enfin dans l'arène en commençant par Marguerite Duras et son ami, Dionys Mascolo. Pas mal. Vers 20h, les deux jeunes femmes arrivent, 5, rue Saint-Benoît, chez Marguerite Duras. C'est près du café de Flore. Elle occupe l'appartement avec le père de son fils, Dionys Mascolo. Florence et Françoise ont acheté une bouteille de vin rouge. Quel bonheur de passer une soirée entourée d'écrivains renommés. Parmi eux, il y a Edgar Morin, Raymond Queneau, Georges Bataille. Tous sont édités chez Gallimard. Françoise observe Marguerite qui s'est lancée dans la préparation d'une omelette vietnamienne. Ce n'est pas tant la description qu'elle en fait qui l'intéresse. C'est surtout qu'elle sait que Marguerite Duras aime les hommes. Tous ces hommes dans la vie d'une femme écrivain, l'idée la séduit. Elle lui plaît même beaucoup. Des hommes grands, forts, ténébreux, romantiques. Des hommes qui conduisent des voitures de sport. Si c'est cela, elle veut bien tout sacrifier et se mettre au travail. Au cours du dîner, Marguerite a la curiosité de questionner Françoise sur ce qu'elle fait dans la vie. C'est Florence qui répond. Françoise sort un livre la semaine prochaine. Les conversations s'arrêtent. On la dévisage. Quel éditeur ? Julliard, répond Florence avec empressement. C'est une mauvaise réponse. On aurait préféré Gallimard. On félicite la jeune autrice d'un air pincé avant de passer à autre chose. Au bout de la table, Françoise se tortille de timidité. Elle est heureuse d'être là, parmi tous ses écrivains, alors qu'elle n'est personne. Enfin, pour le moment. Plus tard, lorsque Marguerite reconnaîtra dans les journaux le visage de la jeune femme qu'elle avait invitée rue Saint-Benoît, elle dira « C'était donc elle ». Françoise Sagan vendra son premier livre « Bonjour Tristesse » à plusieurs millions d'exemplaires. Marguerite Duras, elle, devra attendre 30 années pour connaître cette folie-là. « Bonjour Tristesse » sort le 15 mars 1954. Cette date apparaît dans l'histoire de l'édition et de la littérature comme historique. Mais pour Françoise Sagan, c'est une journée comme une autre, banale. L'écrivaine, on peut l'appeler ainsi puisque son livre est depuis ce matin dans toutes les librairies, se rend chez Julliard, rue de l'Université. Elle se sent seule. Son livre ne lui appartient plus. les employés l'accueillent et l'entourent de leur sollicitude. Françoise s'installe dans le bureau de la directrice commerciale, Rolande Préta. Ensemble, elles partagent une cigarette et beaucoup d'émotions. Une semaine plus tard, on ne trouve aucun papier sur Françoise Sagan dans Paris Match. Pourtant, Michel Déon, qui a lu le manuscrit, a proposé le sujet au magazine. Mais la rédaction lui a fait remarquer que Françoise n'était pas assez connue et que le sujet ne valait pas la peine d'être traité. Or, dans les librairies, le livre démarre. Il démarre même très fort. Les magasins vont être en rupture de stock bientôt. Bonjour Tristesse a été tiré à 4500 exemplaires. Julien décide rapidement d'un nouveau tirage à 3000 exemplaires. L'ouvrage a provoqué une onde de choc, c'est un fait. Et grâce à lui, en ce début de l'année 1954, de nombreux adolescents connaissent leurs premiers émois érotiques. Plus de 8000 exemplaires de Bonjour Tristesse sont vendus en mai. Et sans aucune publicité. Le 24 mai, vers 18h, Françoise est chez elle, tranquille. Elle reçoit un appel de René Julliard, son éditeur. Il lui enjoint d'enfiler sa plus belle robe, de se parer de ses plus beaux bijoux et d'être prête. Une fête aura lieu ce soir même, en son honneur. Elle est l'heureuse lauréate du prix des critiques. La jeune romancière est heureuse, flattée même, d'être élue pour une distinction aussi prestigieuse que celle-là. Mais elle soupire. C'est donc cela le succès ? Une longue série d'obligations. Mais qui sont les membres de ce jury si respectable ? Des hommes, pour la plupart. Ils sont journalistes littéraires, écrivains, membres actifs de la Nouvelle Revue Française. Certains ont été des figures importantes de la Résistance durant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont connu la Grande Guerre aussi. Quelques-uns sont académiciens, d'autres le deviendront. Une seule femme complète le jury. Dominique Horry, la secrétaire de la Nouvelle Revue Française. C'est dire si la composition du jury impose le respect. Obtenir un prix de leurs mains forcera l'admiration des lecteurs et impressionnera les gens du métier. Les critiques ont reconnu dans Bonjour Tristesse la naissance d'un talent littéraire. Ils y ont découvert une pensée moderne. Ils ont apprécié la fraîcheur des mots, la fluidité des dialogues. Dans la littérature de Françoise Sagan, les générations ne s'affrontent pas. Elles vivent ensemble curieusement, elles s'entremêlent. Alors qu'en 1968, la jeunesse pense tout autrement, elle fait table rase des anciens. Et pourtant, Françoise Sagan participera activement à cette révolution qui s'annonce. Pour calmer son trouble devant un tel succès, Françoise boit du whisky. Elle ne parle pas. Et quand on l'interroge, « Pourquoi écrivez-vous ? » Elle répond tout de go, « Pour être riche et célèbre. » La légende de l'impertinence et de la désinvolture est en marche. Et tandis que s'éternise la soirée, la jeune écrivaine, auréolée du prix des critiques, pense à la Jaguar XK120, celle qu'elle ira acheter dès demain, avec ses billets tout neufs. Elle a déjà prévu qu'avec son frère, Jacques, ils descendront à Saint-Tropez, qu'elle ne connaît pas encore. Ils y dépenseront tout l'argent. On l'imagine aisément, au volant de son cabriolet, citant une phrase de « Bonjour Tristesse ». Je me suis levé de mon lit, j'ai ouvert les volets et la mer et le ciel m'ont jeté au visage le même bleu, le même rose, le même bonheur. L'argent ne va pas cesser, bien au contraire. En mai 1954, 8000 exemplaires sont déjà vendus. L'année suivante, et grâce au prix des critiques et au scandale médiatique qu'il va soulever, 850 000 livres se vendront comme des petits pains, puis 1 million. La suite, on la connaît. Toute la vie de Françoise Sagan sera émaillée de 1000 frasques en tout genre, faisant d'elle, comme disait François Mauriac, un charmant petit démon. Voilà pour ce récit que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Christian de Nonquer.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.